Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et son tour du monde des idées. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Dans une interview à The Economist, Emmanuel Macron a déclaré que le plafond de 3% de déficit du budget annuel de l'État était un débat d'un autre siècle.
Eh oui, le président de la République fait ainsi deux choses en même temps. Un, il lance un pavé dans la vitrine allemande. Et deux, il prend parti dans un débat qui fait rage en ce moment entre deux écoles économiques à propos de ça, les déficits et la dette publique. Alors les Allemands d'abord. Depuis son élection en 2017, Macron ne cesse de réclamer à nos partenaires une stratégie commune d'investissement dans les secteurs industriels d'avenir. L'Europe, on le sait, a déjà raté la révolution numérique. Non seulement nous sommes coincés entre les GAFAM américains, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et maintenant les BATX chinoises, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, mais ces géants du numérique sont en train d'engranger à notre propos des milliards d'informations qui alimenteront demain leurs machines d'intelligence artificielle. L'avance prise par certains laboratoires européens dans le domaine, par exemple, des biotechnologies est contrariée par la Cour de justice de l'Union européenne pour des motifs éthiques, certes respectables, mais dont nos concurrents chinois en particulier se moquent éperdument. Dans bien d'autres domaines décisifs pour l'avenir de nos économies, les meilleurs chercheurs, les start-upers et développeurs européens partent faire fortune aux États-Unis. Aussitôt qu'ils ont commencé à percer en Europe. Alors oui, il faut de l'argent pour financer des investissements européens, des réseaux européens, des champions européens, si nous voulons continuer à exister autrement que par nos voitures, nos avions ou nos produits alimentaires. Et l'Allemagne, aux caisses pleines, devrait se montrer plus clairvoyante et plus hardie. Le président français Emmanuel Macron semble avoir perdu patience dans ses tractations avec ses partenaires allemands. C'est ce qu'écrit Mikhail Ivanovitch sur le site de CNBC. Cette fois, il ne cherche plus à les enjôler, il tape sur la table. Il ne demande pas seulement à l'Allemagne d'investir dans des projets communs européens, il lui demande aussi aux Allemands de consommer davantage, de faire moins reposer leur croissance sur leurs exportations et davantage sur la demande intérieure. Et la France en sait quelque chose, puisque au sein de la zone euro, notre pays est le premier client de l'Allemagne et notre déficit commercial avec l'Allemagne est de l'ordre de 40 milliards par an. Nous avons autant de raisons de nous plaindre de cette asymétrie, bah mon Dieu, que les Américains.
Mais voilà Brice, le problème c'est que les Allemands nous répondent depuis toujours, mettez d'abord de l'ordre dans vos finances et puis ensuite on verra.
Mais oui, petit rappel, les finances publiques de l'Allemagne ne sont pas seulement à l'équilibre, mais elles présentent un excédent budgétaire de 1,9% du PIB. L'Allemagne réduit sa dette publique quand nous aggravons la nôtre. La leur est aujourd'hui inférieure à 60% de leur PIB, la nôtre frôle les 100%. Si le déficit était, comme on le répète à Paris, le meilleur moyen de lutter contre le chômage, répètent les Allemands, alors celui-ci serait très élevé en Allemagne et faible en France. Or, c'est exactement le contraire. Moins de 5% de chômeurs en Allemagne, 8,5% en France. Plus grave encore, il semble bien que la France sera, en 2019, le seul pays de la zone euro à ne pas respecter ce fameux plafond des 3% de déficit des finances publiques, considéré comme la principale règle de copropriété de l'euro. Partout ailleurs, les comptes publics sont désormais assainis. Macron avait promis d'en faire de même, mais la crise des gilets jaunes est passée par là et le pouvoir a renoué avec les anciennes politiques de largesses à crédit. Certains s'inquiètent déjà d'un retour discret de l'économie de la demande. Or, les dettes d'aujourd'hui sont payées par les impôts de demain. Mais en sommes-nous si sûrs? Et si l'endettement posait moins de problèmes aujourd'hui qu'hier? Et c'est là qu'il faut rendre compte du débat qui secoue en ce milieu les milieux de l'économie. Comme l'expose Philippe Trenard dans le dernier numéro de la revue Commentaire, ce débat oppose d'un côté des gens comme Lawrence Summers ou Olivier Blanchard et de l'autre Kenneth Rogoff. Pour les premiers, les États auraient tort de ne pas continuer à s'endetter étant donné tout simplement la faiblesse des taux d'intérêt maintenus par les banques centrales. Aussi longtemps, en tous les cas, que ces taux demeurent inférieurs à la croissance, l'opération demeure neutre. Certes, les taux d'intérêt pourraient remonter soudain et dans ce cas, le service des dettes deviendrait bien plus coûteux pour les États. Mais toute une série de facteurs structurels rendent cette hypothèse peu probable. On parle du vieillissement des populations, de la fameuse stagnation séculaire et puis surtout de l'abondance de l'épargne. Il y a même une théorie monétaire moderne selon laquelle les dettes publiques peuvent croître sans fin dans la mesure où bien leur remboursement s'effectue dans une monnaie que les banques centrales elles-mêmes peuvent imprimer sans limite. Absurdité, selon Kenneth Rogoff. Le jour où les acheteurs de bons du Trésor estimeront que l'État émetteur n'est plus capable de payer les intérêts de ses dettes, ils ne voudront pas non plus de sa monnaie. La seule issue à la hausse sans fin de l'endettement, on le connaît, c'est toujours le même, c'est l'inflation. Et ce n'est pas parce qu'elle est aujourd'hui inexistante que cela durera toujours.